Bonjour à tous. C'est une magnifique journée ici sur le campus, et alors que nous pensons au printemps, en particulier aux vacances de printemps qui approchent, que vous soyez dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, mes frères, peu importe, c'est le changement de saison. Il y a une attente, une excitation pour nous tous lorsque nous pensons aux vacances de printemps. Mais alors que je commence ce message, juste par l'introduction, je peux faire le lien avec ce que je vais dire maintenant, une phrase que vous connaissez tous très bien, et que certains d'entre vous utilisent peut-être de temps en temps. Une phrase très simple, à savoir, commençons par le commencement. Trois mots simples, mes frères, alors que nous pensons aux vacances de printemps. Mais vous pourriez aussi aller au restaurant, et en voyant le serveur s'approcher de vous, vous pourriez demander à votre groupe avant qu'il n'arrive, que voulez-vous boire, tout le monde? Commençons par le commencement, que voulez-vous boire? C'est peut-être une façon un peu plus décontractée ou informelle d'utiliser cette expression. Plus sérieusement, si vous pensez que vous avez eu un mois difficile, une période de paie difficile, et que vous vous asseyez à votre bureau, en regardant votre budget, et que vous vous dites, ou que vous dites peut-être à votre conjoint, chérie, commençons par le commencement. Nous devons d'abord payer nos dîmes. Donc, nous connaissons tous cette expression, et nous l'utilisons souvent, mais elle signifie simplement que les choses les plus importantes doivent venir en premier. À l'approche des fêtes de printemps, chers amis, de la saison de la Pâque, comme je l'ai mentionné, nous sommes tous impatients de découvrir ce qui nous attend, ce que Dieu nous réserve. Et pour vous qui écoutez ce message à nouveau, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, la saison change, mais nous sommes tous ici juste avant la Pâque. Si vous écoutez ce message, ce sera quelques jours avant la Pâque, et nous nous sommes tous examinés nous-mêmes. Nous avons hâte de prendre les symboles, mais, frères, comme Christ l'a enseigné à ses disciples, et alors qu'il passait avec eux cette dernière nuit avant sa crucifixion, cette phrase était peut-être aussi dans son esprit. Allons à Jean chapitre 13. Cette phrase, les premières choses d'abord, a peut-être traversé son esprit d'une manière différente. Pas exactement comme je l'ai formulé, mais d'une manière similaire. Lisons ensemble en ouvrant, et ouvrez avec moi, Jean chapitre 13. Il est intéressant de noter, mes amis, que lorsque vous ouvrez ce passage, c'est le seul passage dans l'Évangile selon Jean qui fasse référence à l'ensemble du passage dont nous allons parler, les choses les plus importantes d'abord. Quelle était la première chose dans l'esprit du Christ avant sa crucifixion, avant qu'il ne dise à ses disciples de prendre les symboles, le pain et le vin? Nous lisons ici, comme vous, dans Jean chapitre 13, en commençant au verset 1 avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, Jésus, étant avec ses frères, les ayant aimés, les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Dans son esprit, c'était un moment très tendre, mais Jean nous donne un aperçu de l'esprit du Christ, de ses pensées juste avant sa crucifixion. Il a voulu nous donner plus de détails sur ce que pensait Christ à ce moment-là. Verset 2, nous venons de lire la première phrase ici. Elle dit, le souper étant terminé. Cela signifie pendant le repas, pendant le souper. Passons au verset 4. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge et s'enseignit. Après cela, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il s'est donc passé quelque chose ici, et cela n'était pas tout à fait inconnu des disciples de l'époque. Mais peut-être que ce que Christ a fait leur était inconnu. Comme nous le lisons ici, en passant au verset 6, il vint ensuite vers Simon Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, est-ce toi qui me laves les pieds? Passons au verset 13, ou au verset 12, puis nous pourrons lire le verset 13. Ainsi, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Avant que le souper ne commence, une pensée traversa l'esprit du Christ, « Je dois d'abord faire quelque chose. Je dois enseigner avant de mourir. » Avant de donner les symboles et d'enseigner leur signification à mes disciples pendant la Pâque, il y a quelque chose que je dois d'abord leur enseigner. Et il leur demanda, « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et oui, vous dites bien, car je le suis. Maintenant, mes amis, pendant le service de la Pâque, le lavage des pieds vient en premier pour nous, avant même que nous prenions part au symbole. Mais, mes frères, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Christ a institué le lavage des pieds en premier? Savons-nous ce qu'il a fait en premier? Savons-nous ce qu'il a fait pour les disciples, mais aussi ce qu'il fait pour nous lorsque nous prenons part au lavage des pieds pendant le service de la Pâque? Ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui vont célébrer la Pâque. Vous verrez qu'il s'adresse aux jeunes et aux vieux, aux non-baptisés et aux baptisés. Il y a tant à apprendre pour nous. Ainsi, frères, au cours de ce message, nous examinerons l'importance du lavage des pieds et deux leçons clés que Dieu veut que nous apprenions. Deux leçons clés. Mais avant d'examiner ces leçons, penchons-nous sur l'importance du lavage des pieds. Encore une fois, commençons par le commencement. Pourquoi le lavage des pieds vient-il en premier? Regardons le verset 8. Nous allons lire du verset 6 au verset 8, afin de mieux comprendre la pensée de Pierre à ce sujet. Nous l'avons déjà lu, mais nous allons examiner ces quelques versets de plus près, pour ainsi dire, à la loupe. Verset 6. Il est écrit, « Il vint ensuite vers Simon Pierre, et Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce toi qui me laves les pieds ?» Imaginez les deux bouées ou assises autour de la table, pendant le souper, et voilà que Christ commence à faire ce qu'il a fait. Il s'est saint. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a versé de l'eau dans la cuvette et a commencé à leur laver les pieds. Maintenant, encore une fois, comme nous l'avons dit, cela n'était pas inhabituel pour ces hommes, mais Pierre, disons, parmi les 12 disciples, Judas était encore là, Christ lui a lavé les pieds, il y avait donc encore 12 disciples. Imaginons que Pierre était le numéro 8. Il pouvait donc voir le numéro 1, le 2, le 3 et le 4, tandis que Christ lavait les pieds des hommes. Et je suis sûr que Pierre, c'était bien Pierre, et c'est lui qui est mentionné ici, s'est dit, pourquoi Christ nous lave-t-il les pieds? Cela me semble un peu étrange. Mais continuons à lire, et il est dit au verset 7, Jésus répondit et dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas maintenant. À ce moment-là, Pierre ne comprenait pas tout à fait ce que faisait Christ. Même si, encore une fois, le lavage des pieds ne lui était pas inconnu. Mais tu le sauras plus tard. Christ voulait donc donner une leçon, pas seulement à Pierre, pas seulement au reste des disciples, mais aussi à toi et moi, à tout le monde. Pierre lui dit, verset 8, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Il est donc passé d'un extrême à l'autre, et Jésus lui a dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » C'est donc une leçon très importante que Christ voulait enseigner à Pierre, ainsi qu'aux disciples et à nous ici, depuis le début. « Si je ne te lave pas les pieds, » a dit Christ, « si je ne te lave pas les pieds, » il ne parlait pas seulement de l'acte physique de laver, il a dit, « tu n'auras pas part avec moi. » À ce moment-là, Pierre ne pensait qu'en termes purement physiques. « Comment mon maître, comme nous le disons, comment mon maître, au verset 13, pourrait-il me laver les pieds ?» Ils ne comprenaient pas ce que Christ était en train de faire. Ils ne savaient pas, comme Christ l'a dit, ils ne savaient pas et ne comprenaient pas à ce moment-là. Ils ne cherchaient pas les leçons qu'il y avait là à apprendre. Mais Christ a dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Que signifie cette part? Avoir part avec Christ. C'est très important lorsque nous réfléchissons à l'importance du lavage des pieds, mes amis. En prenant part et en participant au lavage des pieds, nous avons part avec Christ. Même avant les symboles, nous avons déjà part avec Christ. Cela signifie partager, avoir une part, un héritage, une participation. Ainsi, lorsque Christ a commencé, et que nous avons commencé à lire ce passage et à nous demander ce qui lui passait par la tête, il a peut-être pensé, que puis-je enseigner d'abord à mes disciples? Je veux leur enseigner comment avoir part avec moi, comment partager avec moi, comment participer à ce que j'ai en réserve pour eux. Pas seulement pour eux, mais pour vous et moi, frères, qui prenons également part au lavage des pieds. C'était très important pour lui, pas pour Pierre à ce moment-là, mais il le comprendrait plus tard, frères, et vous et moi avons eu l'occasion de lire ces versets et de comprendre, avant de prendre part au lavage des pieds, l'importance du lavage des pieds. Nous pouvons, pour ainsi dire, purifier notre esprit grâce à l'importance de ce geste simple. Christ a établi la norme. Il a établi la norme de ce que nous devons faire, de ce que nous devons penser, de ce qui doit nous traverser l'esprit pendant le service de la Pâque et dans la période qui y mène. Le lavage des pieds, mes amis. La purification physique est liée à la purification spirituelle et à la communion avec Christ. Ainsi, il a accompli un acte physique pour leur montrer qu'une purification spirituelle doit avoir lieu, mais aussi l'importance d'avoir une communion avec Christ, une communion avec le corps du Christ. C'est l'une des choses que nous examinons, l'importance de notre lavage des pieds, pour avoir part au Christ. Le lavage des pieds est une première étape très importante dans les services de la Pâque. Et certains d'entre vous vont célébrer la Pâque pour la toute première fois et vous pouvez dès maintenant vous préparer et savoir que vous participerez au lavage des pieds pendant ce service. Et vous pouvez vous préparer à l'avance en vous demandant, pourquoi est-ce important? Vous pourriez vous demander, pourquoi devrais-je laver les pieds? Ce sont là les choses que nous allons aborder, tout le monde, au fur et à mesure que nous avançons dans ce message. Mais il y a une autre chose importante, un autre point important concernant le lavage des pieds. À l'époque biblique, le lavage des pieds n'était pas facultatif. C'était une obligation. Maintenant, l'acte physique, si l'on repense à l'époque biblique, était un geste d'hospitalité. L'hôte fournissait l'eau, puis un serviteur venait laver les pieds des visiteurs venus chez lui. Il marchait sur des pavés et de la terre, sur de longues distances. Il ne conduisait pas de voiture, il n'avait pas de route goudronnée comme nous en avons aujourd'hui. Ils devaient marcher avec leurs animaux, marcher seuls ou avec des amis, où qu'ils veuillent aller. Ils n'avaient pas de vélo, ni de train, ni d'avion pour garder leurs pieds propres et en bon état. Ils n'avaient pas de chaussettes. À l'époque, ils portaient des sandales ouvertes. Ainsi, il suffisait de faire quelques pas pour que leurs pieds soient déjà sales. C'était donc un geste d'hospitalité. Mais c'était généralement la tâche ou la fonction du serviteur le plus humble. La tradition juive stipule qu'un esclave juif ne devait pas être tenu de laver les pieds de son maître. Cette tâche incombait généralement à un serviteur païen. Ainsi, ce n'était pas le serviteur le plus humble, pas même un serviteur juif, qui devait laver les pieds de son maître, mais le serviteur païen, le plus humble parmi les plus humbles, qui était chargé de le faire. Encore une fois, C'était ce qu'on attendait de lui. Le lavage des pieds était une tâche dégradante. Les gens ne remarquaient probablement même pas la personne qui leur lavait les pieds. Ils pensaient simplement, commençons par le commencement, servons à boire ou entamons la conversation, ou bien j'ai faim, je suis chez moi, chez mon hôte, et la personne qui lavait les pieds, les gens ne lui demandaient probablement même pas son nom. Quand ils sont repartis ce soir-là, ou à tout autre moment de la journée où ils ont pris le repas ensemble chez l'hôte, ils ne se souvenaient même pas de son visage. Frères et sœurs, cela montre à quel point il était choquant que Christ endosse ce rôle. Lisons le verset 13. Nous l'avons déjà lu. Je vais lire un peu plus loin dans ce passage. Comme je l'ai mentionné, c'est le seul endroit dans les évangiles où cela est mentionné. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc n'en parlent. C'est seulement dans Jean que nous trouvons ce passage très important sur le lavage des pieds. Verset 13. Gardez votre main, vous voulez garder votre main sur ce chapitre pendant que nous le parcourons, tout le monde. Vous m'appelez maître et seigneur, et oui, vous dites bien. Vous dites la vérité, car je le suis. Si donc moi, votre seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. J'ai fait. J'ai établi la norme. Je vous ai donné l'exemple ici. J'ai endossé le rôle d'un serviteur, le plus humble des serviteurs. Or, encore une fois, comme je l'ai mentionné, cela n'était pas attendu. Un serviteur juif n'était pas tenu de faire cela. Ce n'était donc pas quelque chose qui occupait l'esprit des disciples à ce moment-là. Je pense qu'ils étaient en train de manger. Pendant le souper, Christ a fait ce qu'il a fait. Les disciples n'avaient pas pensé au lavage des pieds auparavant, peut-être devrions-nous nous laver les pieds les uns les autres ou laver les pieds du Christ. Non, cela ne leur avait même pas traversé l'esprit à ce moment-là. Mais Christ était assurément leur maître. Ils savaient qu'il était leur maître. Après plus de 3 ans passés avec lui, cela était très évident. En tant que leur maître et leur enseignant, Christ a rempli le rôle du serviteur le plus humble. Les disciples n'y avaient même pas pensé, mais c'était certainement choquant et c'est probablement pour cela que cela a choqué Pierre alors que Christ lavait le premier et le deuxième, puis qu'il en arrivait au 5e disciple et au 6e, disons qu'il était le 8e et le 7e, et qu'il avait donc beaucoup de temps pour réfléchir. Les rouages de son esprit se sont mis en marche, le mécanisme d'apprentissage s'est enclenché. Cela montre, à vous tous, que le timing du Christ était délibéré. Le moment quand il a voulu enseigner cette leçon à ses disciples, s'assurant que les disciples étaient dans le bon état d'esprit. Ils ne l'étaient pas au début. Nous voyons que Pierre n'était pas dans le bon état d'esprit au début. Mais lui, son timing, le timing du Christ, était le moment parfait pour enseigner les leçons qu'il voulait leur enseigner. S'ils étaient dans le bon état d'esprit, alors ils seraient capables et prêts à recevoir ce qu'il voulait leur donner. Et c'est la même chose. Il y a une leçon pour nous là-dedans, frères et sœurs. Encore une fois, vous pensez à la Pâque qui aura lieu dans quelques jours. Nous nous préparons pour la Pâque depuis plusieurs semaines maintenant, en débarrassant physiquement nos maisons du levain. Nous sommes prêts. En débarrassant physiquement nos maisons du levain, puis nos vies par l'introspection. En le faisant spirituellement. En purifiant nos maisons du levain physique et nos vies du levain spirituel. Nous avons accompli cette partie, celle que Dieu nous a confiée. Et maintenant, nous sommes prêts à apprendre et à recevoir les leçons que Christ et Dieu veulent nous transmettre. Avant de présenter les symboles, mes amis, Christ a d'abord enseigné à ses disciples de précieuses leçons. Des leçons essentielles que vous et moi devrions également recevoir. De même, c'est le moment idéal pour vous et moi de réfléchir et d'apprendre les leçons du lavage des pieds. Alors, abordons ce dont nous avons parlé. Nous allons examiner l'importance du lavage des pieds, en abordant ce qui s'est passé à l'époque biblique des, ainsi que notre participation à Jésus-Christ. C'est très important. Mais il y a maintenant deux leçons clés que nous devons tirer de ce passage et de ce que Christ a enseigné. Regardons le verset 7. Comme je l'ai mentionné, gardez votre main sur ce passage. La première leçon, comme nous l'avons présentée, tout le monde, Jean chapitre 13, verset 7. Encore une fois, Christ s'adressant à Pierre, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. » Pierre et les disciples ne comprenaient pas pleinement pourquoi Christ leur lavait les pieds. Ils comprenaient le lavage des pieds. Ils l'avaient probablement vu se produire à maintes reprises et quelqu'un leur avait sans doute déjà lavé les pieds par le passé. Cependant, pour avoir et en ayant une part avec Christ, ils finirent par comprendre ces leçons très profondément. Quelle a été la première leçon qu'ils ont apprise et que nous pouvons apprendre, ce que Christ a démontré? Regardons le verset 3. Chapitre 13, verset 3, il est dit, Jésus sachant, il savait très bien, frère, ceci est important, que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Maintenant, si vous rentrez chez vous et que vous lisez ce passage sur le lavage des pieds, si vous avez l'esprit d'un éditeur et que vous voulez copier, éditer et parcourir ce passage, vous pourriez dire que ce verset est peut-être hors de propos, ou que ce verset, que tout le passage peut avoir un sens sans ce verset. Pourquoi Dieu a-t-il mis ce verset dans ce passage, dans les Écritures? Nous savons tous que la parole de Dieu est pure. Il y a donc une raison précise pour laquelle Dieu a voulu que ce verset y figure. Encore une fois, cela nous donne un aperçu de la pensée du Christ à ce moment-là. Vous pouvez lire ce passage, et sans ce verset, le passage reste tout à fait cohérent. Mais il est important que ce verset soit là. Christ savait exactement qui il était. Les disciples savaient qui il était. Il les avait enseignés pendant 3 ans et demi, à ce moment-là. Mais Christ, mes frères, était profondément convaincu de qui il était. Il n'avait aucun doute ni aucune incrédulité à cette époque. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu s'enorgueillir, c'était bien Christ. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu se vanter de qui il était, de ce qu'il avait fait et d'où il venait, c'était bien Christ. Mais continuons, et gardez tous votre main sur ce passage. Passons un instant à l'épître aux Philippiens. Mettez un marque-page ici et ouvrez l'épître aux Philippiens. Ajoutons un peu à la pensée que Christ avait et à la pensée que vous et moi devrions avoir en cette saison, tout le monde. Philippiens 2, chapitre 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Encore une fois, Christ était certainement celui qui savait qui il était. Il aurait pu se vanter, il aurait pu s'enorgueillir. Il savait d'où il venait et où il allait. Verset 6. Vous êtes là, au chapitre 2. Il est question du Christ qui, bien qu'il fût de nature divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu. Christ était de nature divine. Il ressemblait à Dieu. Il était Dieu. Il connaissait Dieu, mais il ne l'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu. Or, le mot « vol » ici, à première vue, peut prêter un peu à confusion. Qu'est-ce que cela signifie? Vol? Sommes-nous soudainement en train de penser au huitième commandement ici? Tu ne voleras point. Pourquoi Dieu insère-t-il ce mot vol ici, un instant, dans ce verset? Christ n'a pas considéré cela comme un vol. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement quelque chose à s'emparer, quelque chose à saisir fermement, à retenir pour en tirer un avantage ou un gain personnel. Cela signifie donc que Christ, qui était ce qu'il était, il savait qui il était. Mais il ne s'est pas accroché à sa position de deuxième personne de la Trinité. Il ne s'en est pas emparé. Il ne s'y est pas accroché fermement pour en tirer un avantage, pour son propre gain personnel. Il était prêt à y renoncer, mes amis. Christ ne s'est pas accroché à sa position de Dieu comme à une bouée de sauvetage. Il connaissait le plan de Dieu. Il savait ce qu'il attendait. Alors que nous entrons dans les vacances de printemps ici dans l'hémisphère nord, nous savons que c'est le début du plan de Dieu. Alors que nous commençons à découvrir le plan de Dieu, Christ connaissait parfaitement ce plan. Il connaissait chaque détail nécessaire, et certainement ce qu'il allait enseigner aux disciples après le lavage des pieds. Il le savait parfaitement. Il connaissait son rôle. Mais, mes amis, renoncer à ce qu'il était a été l'acte de tous les temps. Le seul Dieu, le Père, n'aurait pas pu accomplir ce que Christ a accompli en raison de son autorité. Il fallait quelqu'un qui puisse devenir un être humain. Un Dieu devenant un être humain et renonçant à sa vie, versant son sang pour devenir le sauveur du monde, de vous et de moi. Christ était prêt à faire cela. Christ a élevé une tâche humble comme le lavage des pieds au rang d'une puissante leçon spirituelle. Revenons au verset 7 ici. Excusez-moi, le verset 7. Alors que nous continuons, mais s'est dépouillé lui-même, Christ s'est dépouillé de toute réputation. Il a renoncé à toute sa réputation. Il s'est dépouillé de sa réputation et a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas simplement dit un être humain. Oui, il est devenu un être humain, mais il l'a fait de son plein gré. Il a montré à Pierre, aux autres disciples, ainsi qu'à vous et moi, qu'il est devenu le plus humble des serviteurs, quelqu'un que vous ne reconnaîtriez pas. Nous lisons dans les évangiles que Christ pouvait se fondre dans la foule, que les gens ne le reconnaissaient pas. Il n'était pas quelqu'un qui venait pour se vanter, pour montrer de cette manière qui il était. Il était disposé à être un serviteur. Il est venu pour être un serviteur et a été fait à l'image des hommes. Et, trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous saviez déjà, frères, où il voulait en venir avec cette leçon d'humilité, d'abaissement de soi. C'est une leçon puissante, celle de Dieu qui ne considérait pas comme un vol de rester là où il était. Il ne s'accrochait pas au pouvoir, pour ainsi dire. Il était disposé à le faire pour vous et moi, frères. Et puis vous vous souvenez qu'il a dit, « Faites-vous cela les uns aux autres. Comme je vous ai lavé les pieds, vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres. Comme je vous ai montré l'exemple, cette puissante leçon d'humilité, vous devriez tous vous efforcer d'en faire autant. » C'est en substance ce que Christ disait. Si nous participons au lavage des pieds, nous disons que nous sommes disposés à faire de même. Nous sommes disposés à nous humilier. Et nous l'avons déjà fait, frères, à travers, encore une fois, notre état d'esprit, en nous préparant et en étant prêts. Mais il y a de l'action, il y a davantage d'action en jeu. Il faut davantage d'action. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être un membre baptisé pour réfléchir à l'humilité, pour l'étudier et pour commencer à la mettre en pratique de la manière et dans la mesure où vous le pouvez. C'est donc un message, une leçon qu'il est si important que nous apprenions tous. Christ a fait de l'humilité un mode de vie. Il vient de montrer cet exemple lors du lavage des pieds, et il voulait d'abord enseigner cette leçon à ses disciples. C'était si important pour lui. Maintenant, comment pouvons-nous, vous et moi, mettre en pratique l'humilité? Comment pouvons-nous y parvenir? Verset 4. Philippiens 2, verset 4. Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. Nous pouvons être très occupés, mes frères. Nous pouvons être accaparés par nos propres vies, et surtout en cette période, pendant les vacances de printemps, nous sommes tous actifs, occupés à nous préparer, à nous débarrasser du levain, mais il y a des occasions pour nous d'apprendre à nous intéresser aux affaires des autres. Il y a de nombreuses occasions de ne pas penser uniquement à nos propres affaires, mais aussi à celles des autres. C'est ce que Christ a fait, même cette nuit-là. Il réfléchissait beaucoup, la première chose qui lui est venue à l'esprit lorsqu'ils se sont mis à table, c'était « Que puis-je enseigner d'abord à mes disciples ?» Pas seulement le lavage des pieds. Cet acte de lavage des pieds leur a enseigné la leçon de l'humilité. Frères et sœurs, l'humilité rend possible le véritable service. L'humilité rend possible le véritable service. Vous et moi, nous voulons servir. Nous voulons suivre cet exemple du Christ. L'humilité, cet état d'esprit, a rendu le service possible. Passons à la deuxième leçon. Philippiens 2, verset 5. Nous avons lu le verset 4. Nous continuons au verset 5. Il est dit, « Ayez en vous cette même attitude. » Cette attitude d'humilité qui était aussi en Jésus-Christ, ce n'était pas seulement à un moment donné. Il s'est efforcé d'avoir cet état d'esprit tout au long de sa vie. Telle était son attitude. Si vous voulez examiner l'Esprit de Dieu, réfléchir à son esprit, il est dit ici que l'Esprit de Christ était ainsi. Frères et sœurs, lorsque vous et moi lavons les pieds, de quel point de vue voyons-nous la personne que nous servons? C'est la deuxième leçon que nous examinons, le service désintéressé. Pendant le lavage des pieds, Philippiens 2, verset 5, nous lisons « Ayez en vous cette même attitude ». Le service commence par cette bonne attitude. La façon dont nous nous voyons les uns les autres. Vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous asseoir sur une chaise, quelqu'un va vous retirer, mesdames, les bas, messieurs, les chaussettes, défaire les chaussures, les lacets, et se laver les pieds les uns les autres. Nous avons entendu auparavant que ce sont les pieds les plus propres que vous verrez jamais de toute votre vie. Il n'y a ni saleté ni crasse dessus, mais cette leçon est toujours là pour être enseignée et apprise. Par tout le monde. Le lavage des pieds est un échange réciproque. Il est important que nous nous lavions tous les pieds pendant le service de la Pâque. Mais c'est un échange réciproque. Vous allez vous asseoir et quelqu'un vous lave les pieds, puis vous vous retournez et vous faites de même pour cette personne, vous lui lavez les pieds. Mari et femme, là où vous êtes sur le terrain, là où vous êtes deux membres dispersés, isolés d'une autre congrégation, vous vous lavez les pieds les uns les autres. Mais dans une congrégation, les hommes lavent les pieds des hommes, et les femmes ceux des femmes, mais c'est une relation réciproque. L'un lave les pieds de l'autre, et l'autre lave les pieds de l'un. Les deux requièrent de l'humilité. Nous pensons toujours au service. Encore une fois, l'esprit du Christ était un esprit d'humilité exigeant le service. Mais il faut aussi de l'humilité, frère, pour être servi, pour permettre à quelqu'un de vous servir. Voilà donc la leçon à retenir. Le service désintéressé est réciproque. C'est ce que nous apprenons lors du lavage des pieds. Et je veux que vous y réfléchissiez lorsque nous passerons au lavage des pieds, c'est-à-dire à la Pâque, le service qui nous attend. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un s'il ne vous permet pas de le servir. Parfois, Nous avons besoin d'être servis. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'être servis, et d'autres fois, c'est nous qui servons. C'est là la leçon. Prenons quelques exemples concrets. Des exemples du quotidien. De simples exemples de service. Un service simplifié, je dirais, pour tout le monde. Pour nous, alors que nous pensons aux jours à venir, cela peut être quelque chose qui, à première vue, semble insignifiant et minime. Ce que Christ a fait, le lavage des pieds, on pourrait dire que c'est insignifiant. C'était attendu à l'époque, mais ce n'est pas une tâche énorme, une grande tâche que Christ a accomplie pour eux, mais cela contient des leçons profondes pour nous. Mais cela peut être important pour la personne que vous servez. Ce n'est pas une grande tâche. Cela peut sembler insignifiant, mais pour celui que vous servez, quand cela arrive au bon moment, comme Christ enseignant au bon moment, le moment parfait, les disciples, quelque chose qui arrive au bon moment, c'est important pour la personne que vous servez. Elle a besoin de cette petite chose au bon moment. Regardons notre foyer, les choses que vous pouvez faire à la maison. Qu'en est-il des enfants, des jeunes qui vivent encore à la maison? Vous pourriez penser, comment puis-je servir? Je ne participe pas encore au service de la Pâque. Je n'y prends pas part. J'apprends ce qu'est la Pâque pour la première fois, et le lavage des pieds pour la première fois, diront peut-être d'autres. Il y a donc des leçons pour nous tous, pour tout le monde. Et cela ne se limite pas à cette période de l'année, mais ces principes s'appliquent tout au long de l'année. Aidez aux tâches ménagères sans qu'on vous le demande. C'est elle, une simple tâche que vous accomplissez dans et autour de la maison. Il y a beaucoup de tâches à faire. Les jeunes, les enfants, maman et papa sont occupés à purifier la maison du levain. Il vous reste peut-être quelques instants, pendant que vous écoutez ce message, pour en apprendre davantage sur le délevage. Il y a certaines choses que vous faites, vos tâches ménagères, les tâches qui vous ont été confiées. C'est une tâche où vous pouvez aider maman et papa. C'est le cas pour le délevage, mais qu'en est-il des autres tâches, des corvées que vous effectuez dans et autour de la maison? Il peut s'agir d'une tâche qui vous a été confiée ou d'une tâche que vous décidez d'accomplir de votre propre initiative, sans qu'on vous le demande. À la maison, les conjoints s'écoutent mutuellement et les enfants écoutent leurs parents. Écoutez. Le simple fait de pouvoir s'asseoir, de prendre un peu de son temps, d'aller s'asseoir et d'écouter ce que maman et papa veulent dire, ou maman et papa qui écoutent leurs enfants. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un acte de service, mais écouter, s'asseoir et être prêt à interrompre ce que l'on fait pour prendre le temps, consacrer du temps, sacrifier du temps et s'écouter les uns les autres, c'est une manière simple de remettre les choses en ordre à la maison et de permettre à tout de se dérouler plus normalement. Lorsqu'il y a des problèmes, ceux-ci peuvent être corrigés simplement en s'écoutant les uns les autres. C'est une façon dont nous pouvons nous rendre service les uns aux autres. Servir la famille d'abord. Votre priorité est votre famille et tout ce qui l'entoure. Ensuite, vous venez à la congrégation. Vous allez être ici, certains d'entre vous, pour la Pâque, mais d'autres pour le premier jour des pains sans levain. Si vous continuez, nous aurons une autre occasion. Il y aura un sabbat, puis le dernier jour des pains sans levain. Nous avons de nombreuses occasions, en tant que peuple de Dieu, de nous réunir pour rompre le pain, mais aussi pour assister au culte. Il se passe beaucoup de choses pendant les cultes. Aider à installer les chaises, préparer un repas partage. Messieurs, vous pouvez préparer un repas partage. Mesdames, vous pouvez préparer un repas partage. Les jeunes peuvent contribuer au repas partage. Vous pouvez vous lancer et demander à votre pasteur, puis-je aider à installer les chaises? Ou à la femme du pasteur, puis-je aider avec la nourriture et la mise en place du repas? Il y a tant de façons de servir au sein d'une congrégation. Vous êtes peut-être nouveau et vous souhaitez vous mettre au service des autres. En entendant ce message, vous commencez à vous enthousiasmer. Oh, je peux faire. Je peux apporter ma contribution au sein de ma congrégation. Il existe de très nombreuses façons de le faire, et vous devriez le faire. Mais en écoutant ce que Christ a fait, en adoptant tous cet état d'esprit humble, nous nous préparons à franchir l'étape suivante et à passer au niveau supérieur, pour ainsi dire, cette étape du service désintéressé, cette relation réciproque. Et cela se produit également au sein d'une congrégation. Peut-être encouragez-vous quelqu'un discrètement. Vous voyez que quelqu'un a besoin d'encouragement. C'est un geste simple. Quelque chose de modeste, qui n'est pas forcément très important pour vous, mais cette personne pourrait revenir vers vous un an plus tard et vous dire, je me souviens que vous m'avez dit cela. Cela m'a tellement encouragé. Cela m'a beaucoup aidé. Cela m'a remonté le moral. Cela m'a aidé pendant une période difficile à la maison ou au travail. Et vous pourriez répondre, je ne m'en souviens pas. Ai-je fait cela? Oui, tu l'as fait. C'est donc une petite tâche, un petit mot d'encouragement. Aider les personnes âgées. Encore une fois, pour les jeunes. Aider les personnes âgées parmi nous. C'est un acte de service que Christ remarquera, que le Père remarquera, et qui leur montrera que vous êtes sérieux, leur montrera que vous voulez faire partie de votre congrégation. Vous ne pensez pas qu'à vous-même. En général, les jeunes fréquentent d'autres jeunes. Ils parlent à des jeunes, ils sortent avec des jeunes, mais quand vous mélangez, pour ainsi dire, vos groupes d'âge, en faisant le jeune et les personnes âgées, et les personnes âgées avec les jeunes, c'est important pour Dieu. Ces conversations que vous aurez, si vous les engagez, si vous les aidez et soutenez les personnes âgées simplement en discutant avec elles, vous pourriez leur faire passer une bonne journée. Vous pourriez en tirer des leçons dont vous ne soupçonniez pas avoir besoin. Encore une fois, tout cela revient à une chose, le service désintéressé et le fait d'avoir cet état d'esprit. L'autre aspect, c'est d'aider ses collègues au travail, de prendre ses responsabilités. Si vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire au travail, servez plutôt que de rivaliser. Ce sont des choses que nous pouvons tous faire à l'école ou sur notre lieu de travail. Ce ne sont que quelques exemples, et on pourrait en citer encore et encore, des exemples simples que nous pouvons garder à l'esprit. Christ a enseigné le service désintéressé, le leadership au service des autres. Les leaders doivent servir les autres plutôt que d'être servis et d'exercer une autorité sur eux. C'est ce que Christ a dit à cet endroit précis. Je suis votre leader. Je suis votre maître. Voici l'exemple. Si vous voulez être grand, si vous voulez être de grands leaders, c'est la première chose que vous devez faire, comme je l'ai fait. Pierre aurait-il pu penser, ce serait une honte que les autres voient mon maître faire cela? En d'autres termes, Christ a dit, comprenez-vous que moi, votre Seigneur, je vous ai servi? Par conséquent, allez et servez-vous les uns les autres. Je suis votre maître. Il a enseigné ce leadership au service des autres. Chers amis, Christ a démontré que servir les autres était le chemin vers la grandeur, mais aussi vers le bonheur. Examinons un dernier verset ici. Revenons à Jean chapitre 13. Avoir cette attitude d'humilité, se servir les uns les autres, voilà le chemin vers la grandeur, mais aussi vers le bonheur. Reprenons au verset 16. Jean chapitre 13, verset 16. Il est dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, si vous savez tout ce que vous avez appris aujourd'hui, si vous connaissez les leçons que Christ a données, si vous connaissez l'importance du lavage des pieds. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les mettez en pratique. Christ voulait que nous agissions. Nous avons beaucoup agi, frères, mais il nous reste encore un peu d'action à accomplir à l'approche des fêtes de printemps, et cela nous apportera le bonheur. Lorsque nous nous agenouillons pour laver les pieds de quelqu'un à la Pâque, nous disons au Christ, nous disons à Dieu, « Je veux faire partie de toi. Je veux être humble comme toi. Je veux servir comme toi. » Dieu place, pour chacun, le lavage des pieds en premier, car avant de pouvoir prendre part au sacrifice du Christ, au pain et au vin, nous devons d'abord être disposés à nous humilier et à entrer dans une relation juste avec Dieu et les uns avec les autres.